Et ça marche pas, hein, ce que tu nous demandes.
Bon, alors écoutez.
Pourquoi c'est bien
Radio Campus.
Oh, eh bien, en partie par curiosité, en partie par goût de l'aventure, mais je pense que c'est surtout pour la célébrité et le pognon.
L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Un point d'orgue, parce qu'il peut s'entendre comme un moment de suspens, peut s'entendre comme un moment de vérité. C'est un moment qui pourrait même devenir tellement spéculatif qu'il pourrait tenir d'une percée hors du temps. Qui plus est, si on se met à l'étirer pour mieux profiter de l'espace ainsi ouvert pour fouiller la matière du son et creuser ce qu'il contient. Les compositeurs Samuel Sigicelli et Benjamin de la Fuente ont imaginé qu'en aménageant des inserts au cours de la troisième sonate pour violon et piano de Grieg, ils pourront faire entendre ce qui se trouve à l'intérieur du son du violon et du piano, et peut-être même quelques vérités nouvelles sur la nature et l'arrachement que l'humanité éprouve encore à toujours vouloir s'en approcher. Et comme ils tiennent d'une étrange vivisection, ces inserts peuvent parfois se formuler comme des incises. Enregistrés au GMEM, le Centre National de Création Musicale de Marseille, nous entendrons dans l'heure qui vient les deux compositeurs, Benjamin de la Fuente et Samuel Sigicelli, les deux interprètes, la pianiste Claudine Simon et la violoniste Constance Ronzati, ainsi que le réalisateur informatique Étienne Desmoulins, et sous bien des coutures différentes, la troisième sonate pour violon et piano de Grieg. On a l'impression que pour ce projet, c'est important que le texte de départ soit une sonate.
Ben, en tout cas, c'est un référent culturel important de par la forme sonate, une sonate très caractérisée en termes de mouvement, d'écriture, esthétiquement, Grieg, voilà, on pose un cadre formel assez fort. Et je pense que l'idée de Samuel et Benjamin, c'est vraiment d'aller insérer leur musique dans ce cadre formel et justement utiliser la force de ce cadre.
Ça veut dire de faire récital, mais pas seulement, enfin.
Ouais, d'entrer dans le récital, mais d'essayer d'en sortir en créant des failles dans la musique, des failles ou des brèches, quoi. Dans lequel peut s'insérer, s'incruster la musique.
Ça veut dire que c'est pas de la musique sinon. Enfin, qu'il y a deux échelles de musique.
Pardon, ouais. Je voulais dire, dans la musique de Grieg, on va créer presque d'une manière un peu picturale, créer des incises dans l'œuvre pour injecter ou prolonger ou interroger cette musique-là en créant un développement plus abstrait, enfin avec un matériau plus contemporain,
ouais.
Une réponse. Et c'est un peu le jeu de comment altérer ou questionner cette musique de Grieg, me semble-t-il.
Oui, mais alors ça veut dire que ces incises ne sont pas immédiatement des sorties, dans un premier temps.
Non, parce qu'elles sont. Il y a une espèce de progression dans la façon de les amener. Au début, on amènerait peut-être l'auditeur dans un doute. Il y a cette chose, par exemple, typiquement un trémolo qui reste un peu plus longtemps que prévu. Et une dizaine de secondes, on ne sait pas trop si c'est la musique de Grieg ou s'il y a une abstraction ou une occurrence qui arrive.
Ça pourrait même être un bug d'interprétation.
Ça pourrait être peut-être un bug.
Ouais.
En tout cas, l'idée de mettre en doute un peu ce qui se passe sur scène pour revenir immédiatement au texte. Donc en fait, il y a des échappées qui deviennent de plus en plus qu'on peut remarquer, qu'on peut entendre.
Là, on commence à soupçonner parce qu'il y a des sons un peu bizarres. Moi. Et là, en fait, à aucun moment on quitte vraiment la musique de Grieg. C'est juste qu'il répète juste la boucle ré fa fa na, en l'étirant ré fa fa. Et après, ils amènent un petit peu de petite coloration sous Ponticello qui, là, pour le coup, sonne pas vraiment. Comme du Grieg.
Ouais, mais alors justement.
La musique, elle reste la même.
Oui, mais alors en le jouant, ça veut dire qu'il faut un tout petit peu masquer qu'il y a eu insertion, ou au contraire faire comme les restaurateurs d'art mettent un petit marqueur qui dit au public attention, nous sortons de la partition originale.
Ah non, moi je le joue vraiment dans la continuité. Moi, ma partition, elle est celle-là maintenant.
D'accord, donc c'est une partition, qu'importe le fait qu'il y ait trois auteurs.
Oui, absolument. Il y en a certains, parce que après on est dans la musique, on se laisse emporter par la musique de Grieg, et moi ça m'est arrivé une fois hier, et ça arrivait à Claudine tout à l'heure, où en fait on continue dans Grieg, alors que là il y avait un insert et on a oublié de le jouer.
Ah, vous sautez l'insert, vous oubliez parfois de...
Oui, parce qu'on est tellement à fond. Par exemple, c'est là quand on sort de... Donc ça enchaîne comme... Normalement, ça enchaîne. Sauf que là, il boucle. Et en fait, si on n'est pas attentive... On peut juste continuer d'en griller. Mais laisser passer cet insert-là.
Et est-ce que les inserts donc, qui ne sont pas de Grieg, ça veut dire quand même de les jouer dans le style de Grieg ou est-ce qu'ils sont là aussi pour vous décentrer un peu stylistiquement et que vous jouiez le jeu de cette dérive?
Alors, je dirais que ça dépend lesquels. Il y en a qui sont clairement en contraste, parce que, par exemple, quand on sort de... Là, a priori...
Il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute. Mais quand ça boucle juste...
Ce serait juste du Grieg qui bug.
Voilà, exactement.
Ouais.
C'est le disque rayé, quoi.
Ouais. Mais alors, le disque rayé, c'est quand même un disque qui fait entendre qu'il est un disque. C'est-à-dire que c'est un moment de l'écoute où, en effet, on se met à regarder son écoute sous un autre angle. Il y a comme une mise en perspective, donc... On se met à écouter au second degré, en quelque sorte. Enfin, on se dit, tiens, il y a un discours qui s'arrête. Est-ce que ça veut dire, dans l'interprétation, qu'il faut faire comme si de rien n'était?
Parce que finalement, à vouloir magnifier un passage qui nous plaît ou qui représente à l'intérieur de la forme, d'un point de vue dramaturgique, un climax, comme ça, on s'est rendu compte que on nuit en l'orchestrant, en soulignant, mettant une basse même subliminale d'un violoncelle ou mettre une réverb sur le violon à ce passage-là, finalement, on nuisait à l'objectif. Et que finalement, la simplicité, le fait de juste de simplement de jouer le passage suffisait pour le rendre, pour donner ce qu'on avait envie d'entendre. Donc on a fait hyper attention à pas être dans le gadget, quoi. Et puis aussi, à chaque fois qu'on mettait un insert et à chaque fois qu'on mettait un effet, aussi bien dans le piano, il y a des sons qui arrivent dans le piano, on s'est toujours posé la question, mais qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi qu'est-ce que ça raconte? Même si, évidemment, le public aura sa propre réponse, mais... Et donc, à la fois, on est allé avec générosité, avec amusement, avec naïveté, avec rigolade, et tout ça. Donc, on n'y est pas allé avec des pincettes et avec une crainte absolue d'abîmer Grieg, au contraire.
La phase où le son réveille en vous des émotions, ce n'est pas ça la musique. Tout art a un seul but, la liberté.
Benjamin de la Fuente, pourquoi est-ce que finalement Chelibidac pourrait servir d'arc pour expliquer ce projet?
Ce que je trouve intéressant dans Chelibidac, bon déjà on cherchait des paroles, on ne sait pas trop, mais c'était, comme c'est un travail sur l'écoute, sur le renouvellement de l'écoute, sur le son, Chelibidac... Il ajoute finalement une dimension spirituelle de l'expérience du son et donc de l'écoute. Et ça me plaisait bien parce que il me semblait que... Alors déjà, il y a une dimension quand même assez drôle parce qu'il a un ton, une manière de dire les choses, un accent, il y a un petit côté gourou. Donc il y a quand même une petite distance qui était plutôt sympathique. Mais ça me plaît bien aujourd'hui, je trouve... d'apporter au travail du son, au travail de l'écoute, une dimension spirituelle. Je trouve, quand il dit, quand je démarre ma symphonie, je ne sais pas s'il parlait de Bruckner ou Mahler.
Je pense que c'est à propos de Bruckner. Quand il vise la fin,
ouais,
au moment même où il commence.
Ouais, que le commencement doit être simultané de la fin. Moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est hyper intéressant. Enfin, d'un point de vue spirituel, c'est une évidence. Tout est un, il n'y a plus de temps, la fameuse éternité. En tant que positionnement d'un instrumentiste, d'improvisateur, voire de compositeur, d'avoir déjà une... C'est même pas une projection, c'est pas de savoir ce qu'on va faire à la fin. C'est déjà que la fin est contenue dans le début, dans son propre geste.
De penser chaque moment comme le tout.
Comme le tout.
Ouais.
Ouais, tout est un.
Parce que on dirait que ça a aussi une valeur phénoménologique très presque sensorielle. Enfin, ouais. D'office, c'est-à-dire que quand vous faites ce que vous avez appelé aussi des incises dans le travail, c'est des moments où vous dilatez la perception aussi de ce qui fait musique.
L'idée, c'était pas de mettre des inserts dans Grieg pour mettre sa petite patte ou de manière fonctionnelle pour que ça puisse d'un seul coup mettre du contemporain. Non, c'était une manière de faire un zoom, de profiter de notre culture de l'électroacoustique, notre culture du son au XXIe siècle pour, encore une fois, c'est toujours pareil, renouveler notre écoute.
Dans dans le travail, vous pointiez aussi l'effet d'emphase, la limite d'une sorte d'effet waouh, de magnificence dans lequel une réverbération magnifique viendrait mettre telle résonance du violon, par exemple. Il y aurait un risque à trop de beauté d'un coup.
On va pas évidemment surjouer une beauté déjà existante, voilà. Donc ça a été des grandes discussions là-dessus en ce moment. Violenter ce qui vient de se passer, ce qui va arriver. Au contraire, c'est une perception de dépassement d'un seuil. D'un seul coup, on se permet, d'un seul coup, on se dit peut-être que s'il avait vécu au 21e siècle, à partir de ce moment-là, on aurait passé un seuil, quoi. C'est vrai qu'on ne sent pas du tout la volonté chez Grieg de nous laisser le temps d'apprécier certains passages. D'ailleurs, Grieg a été choisi pour sa capacité à nous apporter de la diversité des matériaux, etc. C'est pas du tout sentimental, le choix de Grieg, finalement.
En fait, moi, je parcours la partition avec les inserts, je cherche vraiment à les intégrer.
Ouais.
Vraiment à... Alors après, il y en a qui sont en rupture, mais moi je les joue dans la continuité. Je sais pas si...
Ouais.
Si c'est clair, mais... Mais c'est un peu frustrant parce que du coup, on ne sait pas trop comment.
Est-ce que quand vous entrez en scène, vous vous dites je vais jouer une sonate?
Oui.
Vous ne changez rien de votre posture de concert?
Absolument pas.
Donc vous vous dites, il y a un moment où ça va vriller, où vous jouez le jeu de se dire que ça reste une sonate?
Ça reste pas une sonate parce que nous on a notre partition, donc si ça s'en tenait qu'à ça avec nos inserts, voilà. Mais il y a la partie électro, qui là clairement rajoute une... Et parfois on est même encore surprise de ce qui se passe dans l'électro, parce qu'on n'a pas le temps de tout anticiper.
C'était ça l'entrepôt. Ce contact avec le cosmos, cette affirmation de la vie en tant que telle, dans son risque, dans son péril, c'était ça l'entreprise des romantiques.
Qu'est-ce qu'on entend, Samuel Sigicelli?
Alors là, on entend Armel Gern, qui était dans les années, je pense, ça c'est dans les années 70, qui était un penseur et un passionné du romantisme allemand.
Ouais.
Le premier romantisme, celui de Novalis, Schlegel et autres. Et voilà, donc c'est une des... des petites phrases qu'on a empruntées à Armel Gern et qu'on déploie dans le projet.
Et le temps est intérieur, à l'intérieur du temps. Il n'y a pas de palier, il n'y a pas de tiroir. Ce qui s'est passé à cette époque-là se passe aujourd'hui tout aussi bien. C'est fraternel et c'est exactement la même chose.
Parce que qu'est-ce qu'elle dit de votre rapport à Grieg, cette phrase ? Elle dit que pour vous, il y a quelque chose d'atemporel dans le romantisme ?
Alors, déjà, s'il faut revenir un petit peu à la source, je pense que Benjamin, comme moi, on est des musiciens d'origine classique, on va dire, filière classique, violon, piano, donc forcément, on a très tôt été nourri de la musique romantique, qui est quand même une des musiques très fortement représentée dans ces instruments-là, un répertoire qui est très important. Donc moi, très tôt, j'ai joué des œuvres romantiques, finalement, des Schubert, des Schumann, adolescent, et puis ça... Personnellement, j'ai été vraiment très attiré par cette musique. J'ai beaucoup baigné dans le romantisme, notamment ce premier romantisme allemand, Schubert, Schumann, Beethoven. Et puis par extension, bon, bah, effectivement, il y a les Grieg, etc., qui viennent de ces écoles-là,
oui, oui.
Bien entendu.
Il reprend à Novalis l'idée d'une liaison avec le cosmos et cette vision cosmique, en quelque sorte, vous allez la chercher telle qu'elle est enfouie dans cette sonate opus 45 de Grieg et telle qu'on pourrait ne pas la voir si on en restait à sa surface discursive en quelque sorte.
Oui, il y a un peu... on pourrait faire ça de beaucoup d'œuvres, en fait, c'est pas propre à Grieg, évidemment, mais ce qui nous intéressait, c'était ce qu'on a appelé l'exploration spectrale de Grieg, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc ça veut dire aussi bien d'un point de vue sonore, si on explore l'intérieur des accords, comme on le fait dans la deuxième partie de notre performance avec Benjamin, où on rentre à l'intérieur de quatre accords qui sont répétés et qui deviennent une exploration spectrale pour le coup, ou bien la temporalité en déstructurant, en fragmentant, en prenant plein de petits bouts, alors c'est vraiment l'idée du sampling de la sonate, les juxtaposant et jouant avec. Donc il y a une exploration de... Et puis alors il y a un moment, évidemment, si on tire les choses jusqu'au bout, on arrive dans une exploration, ça devient la caverne, quoi. On rentre à l'intérieur, comme il y a un peu l'idée du zoom aussi. C'est une idée d'ailleurs très de l'école spectrale, hein. Explorer le son à l'intérieur. On voulait aussi rentrer à l'intérieur des instruments, donc le violon, la microphonie permet ça, le piano. J'ai fait des prises de son du piano vraiment à l'intérieur avec le micro collé au moindre grincement de bois et tout ça, de cordes qui grincent, etc. Donc rentrer dans la matière instrumentale, la lutherie, etc. Donc ça part, Grieg est un prétexte pour aller explorer, c'est une matière à partir de laquelle c'est comme le thème d'une variation, quoi, d'une série de variations. Sauf que c'est pas de la variation, c'est plutôt de l'exploration. Moi, il y a quelque chose qui me touche dans le romantisme, c'est que les grandes idées, les grands fondements du romantisme, moi, me parlent complètement aujourd'hui et me paraissent même, et Armel Gern le dit, en vérité, on n'a même pas trop le choix, on est obligé presque d'être romantique dans le monde. Après deux siècles d'anthropocène, le romantisme était aussi...
Une prise de conscience d'être séparé de la nature.
Oui, une prise de conscience de ce qui arrivait, il en parle... Je crois que j'ai la phrase, mais je l'ai peut-être enlevée, mais il y a vraiment une phrase où il dit que les romantismes voyaient bien arriver la machine impitoyable de l'industrialisation et tout ça, parce qu'elle était déjà en marche, cette machine, début du 19e siècle. Et la voyant arriver, ils ont pressenti quelque part cette destruction générale d'un monde naturel et d'un monde plutôt où l'humain n'a pas une emprise forcément.
Oui, je crois que la première fois qu'on a eu l'idée que les activités humaines pouvaient avoir un impact sur les équilibres naturels, c'était autour des années 1770, c'est-à-dire la décennie à laquelle sont nés Beethoven et Hegel, quoi.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et alors donc, Armel Gern nous ramène à cette idée-là, qu'il y a quelque chose de l'anthropocène qui naît en même temps que le romantisme, et que le romantisme est empreint de cette conscience.
Le romantisme est empreint de cette conscience, le romantisme vénère une forme de liberté, de détachement aussi de toute idée de... Enfin, il est très attaché à l'idée du rêve, et à l'idée d'une perception du monde comme un... plutôt assez contemplative finalement, c'est ça qui est contradictoire. Il y a beaucoup de contradictions dans le premier romantisme, enfin ce qui pourrait apparaître pour des contradictions que petit à petit on comprend comme étant plutôt des facettes différentes. C'est difficile d'en parler en 3 minutes, surtout que là je suis un peu moins dedans, puisque je voulais justement m'en détacher un peu pour pas être bloqué là-dessus. Donc j'ai un peu évacué des choses. Mais il y a toute une dimension sur la liberté, qui est très importante d'ailleurs. Chelibidac le dit finalement, le but de tout art, c'est la liberté.
Plus que l'émotion même.
Ouais, plus que l'émotion. Alors les romantiques, je pense, de l'époque de Novalis seraient assez d'accord peut-être avec cette idée. Parce que finalement... Novalis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne prenait pas l'idée d'une œuvre parfaite. Au contraire, il travaillait beaucoup sur des fragments, sur des choses en cours. Il y a beaucoup l'idée d'expérimenter aussi. Alors voilà, les grands thèmes qui nous touchent aujourd'hui, Benjamin et moi en tout cas, dans le romantisme, c'est effectivement la liberté, l'expérimentation, le travail collectif, bizarrement. Le romantisme, on a toujours l'idée que c'est quelque chose de très solitaire. Mais en fait, ça a été aussi beaucoup l'idée à l'époque de faire des choses collectivement. Et que dans cette fraternité, comme le dit d'ailleurs Armel Gern, il y a quelque chose aussi de très porteur. Il y a l'idée du rêve et de l'imagination, évidemment. Ça fait partie de la liberté. Et des thèmes comme ça, il y a aussi la subversion. C'est-à-dire que le romantisme est contre l'ordre établi. Et d'ailleurs, il réagissait aussi au classicisme.
D'ailleurs, les premières idées, je m'en rappelle, des inserts, on se dit, on va faire des points d'orgue. C'était que ça au départ. On va faire des arrêts du temps. On va s'arrêter sur 2 harmonies. On va s'arrêter sur une tenue. On va s'arrêter et puis petit à petit on dit ça va pas suffire. Donc on va retravailler cette suspension. Ça sera plus un point d'orgue, mais ça sera une suspension. Voilà. Donc un peu écrite. Puis petit à petit on s'est dit que ça serait bien de déstructurer pour mieux appréhender l'original. L'écueil, c'était de déstructurer pour déstructurer, de dire voilà, le répertoire, on le tue, on le détruit, et on en fait autre chose, etc. Non, il n'y avait pas cette idée non plus un peu, je sais pas, Réac, ou de dire voilà, ça c'était de la vraie musique et on va la magnifier et on va profiter des outils d'aujourd'hui pour vous dire à quel point une sonate de Grieg est magnifique. Non, c'était quand même d'en jouer, mais de profiter de notre oreille pour rentrer à l'intérieur. Et d'ailleurs, avant même d'avoir choisi Grieg, quand je parlais de mes projets d'écrire une pièce pour violon piano, mais que je savais pas pourquoi, pour qui, et surtout pas dans un concert standard, etc., et que ça me proposait, dit, mais alors moi aussi j'ai envie d'en faire, il y a quelques années, et il dit, mais alors faisons un spectacle avec le violon piano, qui est une formule qui nous a réunis il y a 30 ans.
Quand vous étiez au conservatoire.
Ouais, c'est ça. Donc c'était pas de la nostalgie, mais moi j'avais envie d'écrire pour violon, puis violon piano, puis finalement, d'un seul coup, bah oui, je te rappelle juste qu'on s'est réunis sur du violon-piano qui mêlait notre travail de composition avec Gérard Grisé et notre travail d'improvisation avec Alain Savouré. Et c'était une manière, ce duo, de réunir les 2 étages, parce qu'il y avait 2 étages qui séparaient au conservatoire les 2 classes. Et c'était tellement antinomique que d'un seul coup, on avait envie de convaincre l'un et l'autre que les 2 étaient compatibles et que...
Et c'est un peu ce que vous continuez à faire, justement.
Ce que continue à faire, voilà, parce que finalement, on s'est rendu compte que faire des belles œuvres, faire de la modernité dans la transdisciplinarité, comme je parlais de ça, ça, c'est finalement, c'était pas ça qui nous intéressait. Ou de mettre des instruments rock ou électriques dans nos projets. Enfin, il y a eu des ambiguïtés là-dessus. Enfin, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de proposer d'entendre différemment.
C'est ça.
Et Grieg, de faire un zoom, un arrêt du temps dans Grieg, c'était déjà une manière de dire stoppez là-dessus, regardez. Enfin, écoutez, ici, Grieg. Alors, je fais des digressions, pardon, excuse-moi. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais au départ, le violon piano, on s'est dit, bon, pourquoi une pièce, etc. Et on s'est dit, mais on va rentrer dans la lutherie, dans la formule piano, clavier, en gros, c'est des cordes et du bois, finalement. Cordes frottées, cordes tapées, on s'est dit, mais finalement, notre oreille d'aujourd'hui, notre oreille aussi électro-acousticienne, finalement, de certaine manière, nous a dit, on va zoomer sur notre formule de violon piano.
Étienne Desmoulins, sur l'affiche de ce projet Sonata, on voit un violon radiographié quasi prêt à être pris au rayon X. C'est quoi les rayons X dans le son ?
Ah bah, pour moi, c'est pas du son les rayons X, c'est des ondes électromagnétiques, du coup c'est de la... ça peut être de la donnée, ça peut être de la lumière. Pour moi, les rayons X, c'est pas trop associé au son. Après, dans ce projet, c'est marrant parce que y a quand même... J'ai beaucoup travaillé sur l'idée des deux salles différentes et du coup de la transmission entre les deux salles. Et là, le côté rayon X, il y est, puisque du coup, il faut quand même faire véhiculer les signaux d'une salle à l'autre, parce que du coup, c'est en duplex, quoi. Et voilà. Mais du coup, on n'utilise quand même pas trop des radiofréquences. Bah si, pour les HF aussi. Mais sinon, on a quand même des câbles pour communiquer entre les deux salles. Mais alors, en fait, les radiofréquences, elles sont là. Elles sont dans la salle laboratoire. Donc le public est sous casque et du coup l'émetteur il marche avec des radiofréquences.
Voilà. Ah oui, quand même. ma question c'était plutôt comment est-ce qu'on radiographie un violon, en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'on en extrait certaines sonorités qui sont pas forcément les plus réputées du violon, quoi.
C'est vrai, oui, après on essaye des trucs, on peut changer son timbre, on peut lui rajouter des effets et tout ça, complètement, ouais, ça on a beaucoup fait.
Alors ça c'est pas la même chose, changer son timbre et rajouter des effets. Et en fait justement ma question serait, quelle est la répartition de ces tâches-là qui ont eu lieu dans ces inserts et ces incises.
Carrément, alors donc du coup il y a vraiment eu ce travail des deux côtés. En amont c'était quand même plutôt donc avec Benjamin du coup, donc on a vraiment créé, donc lui il arrive, il a son violon, il veut faire du violon augmenté, il veut pouvoir changer la texture, changer le timbre et tout. Et donc en fait on lui a créé un instrument dédié sur mesure avec une pédale. Donc il a une pédale, il a une pédale de volume et il peut changer des effets comme un pedalboard, quoi. Ouais. Sauf que tout est numérique, il n'y a pas du tout de pédale analogique que tu branches les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes d'effets mais tout est dans l'ordinateur. Et du coup, quand je dis qu'il faut faire l'instrument, c'est vraiment le pedalboard de base, tu appuies sur le bouton, moi je reçois juste l'info. Et du coup, il faut créer toute la logique qui fait, quand tu vas appuyer sur ce bouton, ça va activer cet effet. Mais si tu appuies d'abord sur ce bouton, puis sur ce bouton deux fois, par exemple, ça va changer le preset. Donc on a vraiment bien travaillé à modeler l'espace à ce niveau-là.
Et les presets, les effets, vous les avez choisis comment
C'est plutôt eux, après, dans le travail. Plutôt les effets, eux, ils avaient une idée déjà de ce qu'ils voulaient en termes de matériaux. Donc, ils veulent un freeze, ils veulent... Enfin, du coup, plutôt, je parle pour Benjamin. Benjamin, il voulait un freeze, il voulait un delay, il voulait cette reverb-là, ces trucs-là. Et donc, après, eux, ils sont vraiment autonomes parce qu'ils sont acousticiens, électro-acousticiens et compositeurs. Enfin, ils ont vraiment la maîtrise de l'outil. Moi, je les ai accompagnés plutôt sur le développement du... Ouais, de l'outil, le développement de l'outil, et après, eux, ils le gèrent très bien, même mieux que moi.
Ça fait quoi, un freeze ?
Alors, le freeze qu'on a, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le signal, il regarde des bouts de signal qui font à peu près 500 millisecondes, tout le temps. Donc là, quand je parle, là, le freeze, il regarderait les bouts de signal de 500 millisecondes. Et quand j'appuie sur le bouton, lit en boucle ces quelques millisecondes qu'il a enregistrées avec un espèce de fade. Enfin, en tout cas, avec des, il ajuste la fenêtre de lecture pour qu'on ait l'impression que le son continue au moment où le geste a été frisé. Voilà.
Ok. Et ça donne quel effet d'un point de vue esthétique?
Et du coup, ça gèle, ça nous emmène.
Ça gèle.
Ouais. On parle de gel, on parle de. Ça nous emmène dans. Ça nous emmène loin, quoi. Le frise, ça suspend.
Parce que c'est vrai que le vocable technique des opérations qui sont menées est un vocable assez froid. Le gel, le freeze, c'est...
Alors ça dépend, celui-là oui, mais par exemple on a des effets plutôt chauds.
Genre
un délai granulaire, c'est chaud.
Un délai granulaire, c'est chaud.
Ah ouais, moi je trouve que ça sonne plutôt chaud, non?
Ouais, c'est vrai. Mais là, il y en a beaucoup de délai granulaire.
Oui, il y en a pas mal aussi. Ouais.
Et il y a quel équilibre? Il y a des chauds et des froids dans les effets?
Moi je pense moite-moite, on peut avoir des effets chauds, des effets froids...
Enfin, c'est peut-être pas un hasard si quand on veut conserver un corps qui vient de mourir à peu près dans l'état, on le gèle.
Complètement.
On le brûle pas, quoi. Donc il y a une force de conservation du froid quand même.
Ouais.
Et par rapport à ce projet de faire durer une sorte de point d'orgue sur une œuvre musicale, c'est un peu comme si on le mettait au congèle, non?
On met au congèle la sonate de Grieg.
Peut-être.
Peut-être, mais en même temps, alors... Ouais, mais tu vois, je suis d'accord que des fois on la met au congèle, la sonate, mais des fois aussi on la brûle.
On la met au micro-ondes tout de suite.
Non, ouais, où on met de l'essence dessus, on l'allume et on la regarde brûler. Et en fait, finalement, les deux à la fois, en même temps. C'est ça qui est bien. Et on essaye d'écrire. Enfin, après, moi, je suis que le piètre technicien qui m'occupe juste
de programmer. Qui prépare et le four et le congèle.
C'est ça. Moi, je construis le four et le congèle. Et après, ils écrivent la manière et quand est-ce qu'ils brûlent et quand est-ce qu'ils glacent. Et les deux en même temps. Et dans deux salles différentes en plus.
Mais
fantastique,
alors, laquelle est le four, laquelle est le congèle dans les deux salles?
Ben ouais.
Alternativement,
ouais.
Non.
Ouais, les deux. Enfin, moi, je pense que dans les deux salles, à la fois, des fois. Enfin, du coup, pour moi, c'est la même. C'est comme si t'avais cette même pièce dans les deux salles en même temps et de manière différente à différents endroits, on brûle et on glace la sonate.
Parce qu'on a cherché d'autres mots que insert pour désigner ce que ça veut dire. On a pas mal parlé d'incise, ce qui laisse penser un peu à une logique d'entaille aussi, quelque chose qu'on fait de façon quand même suffisamment vive pour que le geste soit précis.
Complètement. Mais il y a les deux, il y a vraiment des incises, je suis d'accord, où effectivement il faut que j'arrive presque rythmiquement dans leur son. Et des fois où il faut qu'au contraire que ce soit très doux et très... mou, une incise molle.
Parce que être ingénieur du son, c'est aussi avoir des réflexes d'homogénéisation de l'acoustique.
Ouais.
Et peut-être est-ce que, en l'occurrence, cette homogénéité-là, elle vient un peu contre l'esprit de la pièce. Si on parle d'incise, ça veut dire qu'on veut ouvrir un autre espace. Donc, il faudrait à ce moment-là donc doser l'hétérogénéité entre ce qui se passe dans ces incises et le reste du temps.
Après il y a quand même ce côté enfin je suis d'accord avec toi sur l'ingénieur du son et le travail de mixage et d'équilibrage. Je suis complètement à cet endroit-là, mais aussi à l'endroit du coup du réalisateur en informatique musicale, qui est le terme un peu pompeux que j'aime pas trop. Je considère que c'est
mais qui est justement solidaire de l'esthétique de la pièce.
Ouais, et c'est ça, et voilà. Et à cet endroit-là, donc juste je trouve un autre mot pour réalisateur en informatique musicale, ce serait plutôt musicien électronique. Voilà, je me définis comme ça, musicien électronique, où là pour le coup, j'ai une je joue la pièce avec les filles et du coup là, je peux faire des incises et là, j'ai un travail musical d'interprète.
Et alors, parce qu'à l'interprétation, pour vous, ça doit être un tout petit peu tangent, à savoir est-ce qu'on sort du discours ou est-ce qu'on sort même du genre sonate à ce moment-là, ou est-ce qu'on continue à faire comme si de rien n'était?
Pour moi, dans cet exemple, il faut... incorporer ces transformations comme un prolongement de la musique de Grieg. C'est un peu comme ça que je l'imagine.
Donc on fait comme si c'était du Grieg.
Oui. Sauf que plus ça va être caractérisé, plus marqué la différence, plus parfois il faut se saisir du nouveau caractère et puis comme s'il y avait un montage avec un ajout, une greffe, quelque chose qui arrive qui est plus étranger au langage et à la partition, mais qu'on adopte momentanément et puis on revient. En fait, c'est des va-et-vient très rapides entre...
C'est-à-dire que ça devient bicaractériel, en fait, c'est ça?
C'est ça.
et ça veut dire à ce moment-là d'être un peu moins dans la musique pour être entre deux musiques ou...
Pour moi, c'est toujours la musique, mais c'est pas tout à fait le même canal. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de musicien qui travaille Grieg et qui n'est pas toujours le même. En tout cas, il s'agit de jongler entre deux postures, musicien-interprète d'une œuvre du passé et se mettre un peu dans une disposition où tout de suite on peut être un musicien qui va se relier un peu différemment à la musique, en tout cas, même si tout ce qui est demandé par l'écriture de Samuel et Benjamin est écrite. Il n'y a pas d'improvisation, donc on est vraiment dans un rapport au sexe assez proche. Mais la nature de la musique étant différente, ça brouille un peu le...
Parce que j'ai l'impression que si on joue trop l'écartèlement stylistique, alors est-ce qu'on rentre dans une espèce d'acrobatie qui n'est pas exactement l'enjeu ?
Justement, là, ils sont restés quand même dans une musique qui sort du cadre, mais qui n'est pas trop éloignée. On ne bascule pas dans un champ sonore très... très différent. Effectivement, il y a des transducteurs dans le piano, il y a des choses qui se passent au niveau des Larsen et l'environnement sonore et change, on sort de l'état acoustique, mais pour moi, il n'y a pas un grand écart entre la musique de Grieg. Justement, c'est une frontière intéressante, quoi.
Ouais.
En sortir sans aller complètement stylistiquement vers... un langage.
Donc plus le prolonger que le défoncer.
Oui. Là, on est dans Grieg.
Et là, on est sorti.
On est revenu à Grieg, mais entre les deux, il y a eu une espèce de développement, d'accord, d'agrégat dans le grave, un peu comme si on allait visiter un autre territoire. Ça fait, pour moi, ça m'évoque quelque chose d'assez fantastique dans l'univers. Voilà, le fait de prolonger cette basse, normalement, c'est ça la partition de Grieg, et on passe à Do majeur. On s'engouffre un peu dans la forêt mystérieuse. En plus, en inversant les accords, c'est-à-dire qu'il y a la dominante avec la tonique, la tonique avec la dominante, ça va, et on va accrocher.
Parce que est-ce que prolonger la basse de cette façon-là, c'est s'engouffrer dans la forêt, ou est-ce que c'est sortir sur une aire d'autoroute et d'avoir tout d'un coup un recul quasi, je sais pas, pathétique sur la réalité de l'autoroute? Parce que quand on s'arrête, on prend conscience de l'absurdité de cet environnement quand même.
Ouais.
Et là, on se demande pourquoi est-ce que, en effet, Grieg s'était un peu enferré dans une basse comme ça, de suite d'accords, poum.
Et en plus, c'est en levé, c'est en contretemps, c'est un ta, ta, ta,
ouais.
Toujours en dehors du temps. Et c'est comme s'il avait un peu, je pense que c'est Samuel qui a écrit cette partie-là.
Oui, parce que c'est vrai que le mettre quasi en boucle, c'est aussi une façon de le commenter, comme regarder, ceci n'est jamais qu'une formule.
Oui, la décupler, de jouer avec, de la regarder, de changer le regard qu'on pose sur cette main gauche.
Au début, on pensait seulement faire des petites touches très discrètes qui juste laissaient penser que oui, c'est vrai qu'on n'est pas juste dans un concert de sonate, mais il y a un lien avec une autre chose qui intrigue. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant de juste suggérer ça. Il fallait rentrer plus, y aller vraiment et dialoguer vraiment avec Grieg. Et lui, et même, je sais pas si Grieg se retourne dans sa tombe quand il entend les inserts qu'on a pu ajouter, faire dans sa sonate. Mais nous, on le voit plus comme un dialogue et un partage. Et il y a l'idée collective. En fait, avec Benjamin, on travaille en collectif, on va dire à deux, c'est ça. On travaille avec les filles, donc Claudine et Constance, sur l'interprétation de la sonate, etc. Et puis, Grieg est avec nous, quoi, il est là. Et on peut inciser ça dans cet endroit-là, rentrer ce petit bout, ok, je suis d'accord, etc. Enfin, c'est...
Oui, c'est cette idée d'incise qui revient dans les différents entretiens, et c'est un peu aussi un geste chirurgical, c'est-à-dire on met une petite incise pour voir, à la fois pour évacuer ce qu'aurait un peu pourri dedans, mais aussi pour aller voir comment ça fonctionne à l'intérieur.
Ouais, c'est un peu ça,
Avec le risque de la vivisection, quoi.
Voilà, alors la plupart des inserts qu'on a fait dans la sonate sont quand même des inserts, on va dire, des espèces de gels. Des choses qui d'un coup se mettent en suspens, ce sont des espèces de super points d'orgue habités par un peu d'électronique, quelque chose. Ça, c'est l'idée de base, c'était ça, c'était juste de créer des trous dans le temps, dans la temporalité du discours grieguien. Et puis finalement, il n'y a pas eu que ça, on a aussi transformé parfois le langage pour qu'il se détourne un peu et qu'il devienne. On a travaillé aussi sur ces couches plus horizontales, pas que dans la. Dans insérer des points d'orgue, quoi.
Parce que quand on présente l'histoire de la musique comme une succession de périodes, on va facilement laisser penser que la musique spectrale, c'est le bout du XXe siècle et ce qui ouvre le XXIe siècle, et donc quelque chose qui est bien affranchi du romantisme, alors que vous, ce que vous faites, c'est d'utiliser les techniques spectrales pour aller à l'intérieur d'une espèce d'anhistoricité de la musique romantique.
Oui, alors il n'y a pas d'idéologie derrière tout ça, hein. C'est très intuitif, très artistique, mais moi il y a quelque chose qui me touche dans le romantisme, c'est que les grandes idées, les grands fondements du romantisme, moi me parlent complètement aujourd'hui et me paraissent même, et Hermel Gern le dit d'ailleurs dans le même entretien dont sont tirées ces deux phrases, il dit en vérité, on n'a même pas trop le choix, on est obligé presque d'être romantique dans le monde. Après deux siècles d'anthropocène, le romantisme était aussi... Ça rejoint un peu l'idée aussi de la phrase, celle-ci-là.
Et le temps est intérieur, à l'intérieur du temps. Il n'y a pas de palier, il n'y a pas de tiroir. Ce qui s'est passé à cette époque-là se passe aujourd'hui tout aussi bien.
Voilà. Bon, il n'y a pas de progression de temps. Il y a des facettes, des perceptions. Et puis finalement, on revient toujours sur les mêmes choses. Il y a aussi cette idée-là en plus.
Mais puisqu'on parle d'expérience d'écoute depuis Alain Savoy, qu'est-ce qu'on entend dans ces moments de point d'orgue ou de zoom, que d'une certaine façon, Grieg, à l'état naturel, ne laisse pas tant que ça entendre, ou pas assez entendre.
C'est là où on a une attitude tout à fait volontariste, peut-être pas très agréable pour les descendants de Grieg, je sais pas. C'est vrai que on sent pas du tout la volonté chez Grieg de nous laisser le temps de d'apprécier certains passages ou finalement cette. D'ailleurs, Grieg a été choisi pour sa capacité à nous apporter de la diversité des matériaux, etc. C'est pas du tout sentimental, hein, le choix de Grieg, finalement. Ça aurait été sentimental...
C'est parce que, justement, il supporte beaucoup de points d'orgue.
Voilà, il supporte beaucoup de points d'orgue. Il nous permet d'avoir des petits fragments de caractères totalement différents. L'arrêt du temps ou tendre l'oreille, c'est aussi tendre vers une éternité, vers une suspension, un suspens. Et c'est magnifier le rôle de la musique, c'est magnifier le rôle de l'écoute, et donc de l'écoute. Et c'est ça qui me c'est pour ça qu'on prend Chili Bidak, ou enfin, moi ça me plaisait. C'est pour revenir à ça, c'est si on peut apporter évidemment dans un idéal une réalisation. Que l'écoute pour le public, que l'écoute et que la musique peut nous emporter dans une réflexion, dans une quasi spirituelle. Moi, ça me plaît beaucoup. Et je crois de plus en plus que il faut mettre en condition d'écoute. C'est pas le monde moderne qui nous permet de prendre le temps d'entendre, de prendre le temps d'écouter le même nous, on a du mal à être concentré une heure dans un concert et encore moins sur un disque. Encore faut-il écouter encore des disques. Mais donc je vois bien que on a, en tout cas moi, si je continue à écrire de la musique ou si je fais des projets, c'est parce que je prétentieusement, je considère que j'ai une mission, quoi. C'est-à-dire, je veux faire partager ma perception du monde. Par le biais, le prisme de l'entendre, de l'écoute. Moi, c'est vraiment entendre une forêt ou entendre une musique, pour moi, c'est pas trop différent. Hein.
Et en plus, il y a un... qui sort dans le piano. Et après, on récupère.
Parce que le plaisir à jouer, comment il se déplace ? Est-ce que c'est un plaisir alternatif qui vient s'insérer dans le plaisir classique ? Parce qu'il y a quand même un plaisir à jouer une sonate classique. Ou bien, enfin, est-ce qu'il y a une gamme de plaisirs qui se relient les uns aux autres au cours de cette sonate-là ?
En fait, le plaisir, il est en très multiples, je dirais. Parce que déjà, avec Claudine, on s'est retrouvés sur ce projet. On ne se connaissait pas avant. Et je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Cette sonate de Grieg, elle est quand même assez... C'est assez jouissif à jouer. Donc c'est vrai que c'est que du...
C'est que du bonheur.
C'est que du bonheur.
Mais en fait, moi, ma question, c'est comment s'emboîte le jouissif d'insérer, le fait de sortir du texte initial. En quoi est-ce que c'est un plaisir spécifique ?
Bah déjà, il y a une primeur. Enfin, comment dire ? Je sais pas si c'est le phénomène de la création entre guillemets. De se dire qu'en fait les gens, bah, ils ont jamais entendu ça.
Il y a un côté surprise, ouais.
Donc il y a ce côté surprise, il est assez excitant. On reste très très sérieuse.
Oui, c'est vrai.
Dans n'importe quel contexte. Moi, je sais que j'ai toujours la tendance, même quand je travaille mon violon toute seule, quand je répète, quand je boucle des passages, je boucle. Parfois, mon esprit est complètement emporté vers autre chose, vers une une chanson de variette qui commence avec la même boucle ou qui... Ouais. Donc c'est marrant parce que je retrouve un petit peu ce phénomène là dans les inserts. Donc c'est quelque chose qui m'est totalement naturel.
Ah, c'est un peu comme si, pour une fois, on rendait public les pensées parasites.
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. En termes de créativité, c'est tout à fait raccord.
Bon, on n'est pas des minimalistes, hein, comme t'as pu le remarquer. Hein. On aime bien les... c'est peut-être là où on est assez romantique, finalement. On aime bien les contrastes, on aime bien les espaces, les ouvertures d'espace, les fermetures. On est assez cinématographique aussi, on aime bien les...
Les ruptures.
Les ruptures, exactement. Les progressions, les suspenses. On est assez proche de tout ça. Donc tout ça nécessite d'avoir sous le pied, on va dire, de la matière. Et...
Parce qu'au lieu d'affirmer la granularité comme une esthétique nouvelle, vous la remettez en dialogue avec ce dont elle est la granularité, c'est-à-dire d'un, oui. d'un son instrumental originel d'avant l'électronique.
Oui, c'est un peu la boucle dont je parlais.
Oh, c'est ça, ouais. Mais qui est une boucle qui veut dire qu'il y a plusieurs, quand je parlais de strates, plusieurs périodes historiques qui sont en cours, plutôt que la nôtre devrait remplacer toutes les précédentes.
Oui, ouais, effacer. Oui, tout à fait d'accord. Oui, absolument.
C'est pas si fréquent.
Non, c'est pas si fréquent. Après, on peut pas faire que ça. Ça me rappelle toujours Savouré qui disait on avance. D'ailleurs, ça vient pas de lui, je crois que c'est Paul Valéry. Mais, il dit on avance à reculons. En fait, on avance dans le futur en regardant le passé, évidemment. Ou alors avec un rétroviseur, lui. On a un rétroviseur, puis on regarde ce qui se passe derrière. Mais
si on regarde trop le rétroviseur, on oublie de regarder la route. Hein.
c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc il ne s'agit pas du tout de regarder trop le rétroviseur. C'est pour ça que je dis on ne peut pas faire que ça non plus.
Ouais.
On n'est pas du tout des passéistes. On ne regrette pas du tout cette époque. C'est juste que on avait envie de faire ce travail au départ. On est parti vraiment du piano et du violon. Et qu'est-ce que c'est le piano et le violon? C'est aussi toute une histoire, une littérature. Et donc petit à petit, oui, en même temps, cette littérature, elle est pas forcément... elle nous parle pas forcément en tant que compositeur aujourd'hui, pas toute la journée du grec, mais elle nous raconte des choses sur ce qui s'est passé depuis 200 ans, quoi. Enfin, c'est pas tout à fait 200 ans, 150, on va dire. Voilà, regarder derrière, refaire revenir dans la boucle, ça, réfléchir dessus, c'est une manière de réinterroger, mais finalement d'avancer, pas de revenir vers le passé. Enfin, moi, je le vois pas comme ça du tout. Mais...
Et Cortot, il dit quoi
Alors, Cortot, lui, il parle de... Il est vraiment dans l'interprétation de Schumann. Comment ça s'appelle?
Le poète parle.
Le poète parle, tout à fait. Et il dit...
Plus rêveur. Il me semble que le dernier morceau devrait être transposé sur un plan de rêverie plus intime. Pas seulement la belle sonorité, la détente expressive de la phrase, mais un sentiment plus rêveur. La vérité est qu'il faut rêver ce dernier morceau, pas le jouer.
Bon, ça rejoint vraiment un des aspects du romantisme, qui consiste à être beaucoup plus dans le rêve que dans la matière. Encore que, bon, ça aussi c'est un peu un cliché, puisqu'il y a aussi toute une dimension du romantisme qui veut être dans la matière. Mais disons la matière plus cosmique, c'est d'ailleurs le moment où...
Mais dans les deux cas, il s'agit de lâcher le discours.
Oui, je pense que dans les deux cas, on est... D'ailleurs, il le dit, comme pour Tchelibidac, c'est pas l'émotion, la détente expressive de la phrase, tout ça c'est le l'appât, comme dit Tchelibidac. C'est l'appât, mais le vrai but, c'est la liberté. L'imaginaire, le rêve, l'imagination et cette dimension très propre à l'humain, je pense aussi.
Est-ce qu'on met une cerise sur